Radio Grand Ciel présente le quart d'heure de santé, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Laure Avo et de Paolo Davi. Au micro, Christiane Blain. C'est toujours avec joie que je reçois le docteur Roussel. Aujourd'hui, le docteur Roussel va évoquer le nourrisson. Nous n'avons pas encore parlé de cette problématique du nourrisson et je suis très heureuse que le docteur Roussel commence avec justement le bébé qui naît. Docteur Roussel, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors, justement, combien d'examens de santé va avoir le nourrisson? Parce que quand naît le bébé, la mère est forcément angoissée. Elle ne sait pas trop comment s'y prendre avec ce bébé. Faut-il le nourrir? Faut-il donner le biberon? Elle se pose beaucoup de questions. Alors, justement, je pense que vous avez déjà eu dans votre cabinet beaucoup de nouvelles mères. Comment faites-vous pour le premier entretien, je dirais?
Alors, le premier entretien ne se fait pas au cabinet, mais à la maternité, puisque c'est là où le bébé va naître et où les examens vont commencer. Donc, les examens de surveillance et de dépistage pour éviter les soucis et vérifier le bon développement de l'enfant ont été codifiés et... De la naissance à l'âge de 16 ans, là on n'est plus dans le nourrisson, ça représente actuellement 20 examens puisqu'il s'en est rajouté récemment pour les adolescents. Ces examens sont très importants parce qu'ils vont permettre d'abord, comme vous le disiez, de répondre aux questions de la mère, d'évacuer ses angoisses et surtout de surveiller le nourrisson pour voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de problème particulier. Donc le premier examen aura lieu immédiatement après l'accouchement.
Donc ça se fait à l'hôpital, à la maternité.
À la maternité ou à domicile, mais ça devient rarissime.
Avez-vous eu des accouchements
deux dans ma carrière, mais un peu en catastrophe, mais qui se sont bien passés. Donc avec prise de température, taille, poids, fréquence cardiaque et vérification de la coloration de la peau. Donc ça, c'est immédiatement à la naissance. Dans les 5 premières minutes de vie, on réalise le test dit d'Apgar.
Et pourquoi ce terme ?
Apgar, c'est le nom de la pédiatre qui l'a mise au point et qui, en plus, correspond à peu près, sur le plan mnémotechnique, à ce qu'il faut vérifier. Mais c'est un nom propre. Donc ce test est coté de 0 à 10. Il va vérifier donc l'apparence, A, le pouls, P, les mimiques, donc les grimaces, G, l'activité, mouvement spontané ou tonus, A, la respiration, R. Voilà. Et c'est un hasard. Bon, chaque item est coté de 0 à 2. Si on trouve entre 7 et 10 dans les 5 minutes après la naissance, ce test est normal. En dessous de 7, la surveillance est renforcée et le test est refait 5 à 10 minutes après. Alors, il s'agit d'un test très simple, possible à faire sans aucun matériel, n'importe où, et qui va indiquer si une surveillance plus intense est nécessaire. Mais ce test ne préjuge en rien de l'avenir de l'enfant dans les deux sens. Hein. Oui. Il peut aller très bien avec un test bas, il peut y avoir des soucis avec un test haut. Ce test-là va permettre simplement de savoir si tout se passe bien et on a le temps de discuter avec la mère et de faire autre chose, ou s'il y a un problème, il faut surveiller le nourrisson de plus près ou le diriger sur un service spécialisé.
Et ça, on ne pouvait pas s'en apercevoir sans examen.
Ça permet de codifier. Oui. C'est plus simple. Oui. Donc l'enfant est bien entendu surveillé régulièrement dans le postpartum, mais avant le 8e jour de vie, un examen complet est obligatoire avec rédaction du premier certificat. Il y a plusieurs... Alors il y a des examens obligatoires et réguliers, mais il y a des examens, 3 minimum, pour lesquels un certificat est à remplir. Je vous expliquerai après.
Mais là c'est en plus du premier examen.
C'est après. C'est dans les 8 jours.
Dans les 8 jours.
Donc... En principe, avant la sortie de la maternité, puisque maintenant, ça se fait rapidement. Ou si la sortie se fait dans les 3 jours, on peut le faire 2-3 jours après.
Et normalement, la mère reste combien de temps maintenant?
Entre 2 et 7 jours, suivant les cas. Oui. Donc cet examen comportera bien entendu la taille, le poids, le périmètre crânien, la fréquence cardio-respiratoire, un examen complet de l'enfant avec une recherche de souffle cardiaque, un dépistage de la luxation congénitale de la hanche avec une petite manipulation, et en cas de problème ou de doute, une échographie de la hanche qui permet après de mettre un système de l'ange bien particulier pour réduire les risques. Et un dépistage de la surdité néonatale Alors, qui n'est pas fréquente, 0,5 à 1,3 pour 1000, mais il faut mieux le dépister très tôt.
Oui, mais l'enfant, comment voit-on qu'il entend alors ?
Alors, ça, c'est un dépistage qui se fait à l'hôpital avec du matériel. Hein.
Ah oui, c'est ça.
L'enfant, bien entendu, ne va pas lire des textes qu'on lui propose.
Ça, c'est sûr.
C'est complété par une analyse biologique avec prélèvement d'une ou deux gouttes de sang au talon, comme on faisait avant au bout du doigt, mais là, c'est au talon. Ça s'appelle le test de Guthrie, qui va dépister donc l'hypothyroïdie, la phénylcétonurie, l'hyperplasie des surrénales, la mucoviscidose et un déficit en hormones. Mais bon, tout ça, c'est pas fréquent. Mais c'est surtout l'hypothyroïdie et la mucoviscidose qui sont très importants à dépister très tôt. Les résultats de cet examen sont notés dans le carnet de santé qui accompagnera l'enfant en permanence et sont reportés sur un certificat qui est adressé au service de protection maternelle et infantile pour le suivi. L'ensemble des résultats est ensuite anonymisé par la PMI et adressé au service du ministère de la Santé à visée statistique. C'est très important puisque tous les enfants dépistés, leur résultat arrivera dans les bureaux du ministère de la Santé et ça permettra de faire des statistiques nationales et de voir l'évolution des pathologies ou de ces choses.
Ah oui. Et alors, par exemple, tout à l'heure, vous disiez qu'on pouvait donc dépister s'il y avait hypothyroïdie, etc. Est-ce que on peut soigner ça tout de suite ?
Bien entendu, oui, oui.
Ouais. On peut le soigner immédiatement.
Tout à fait. On donnera des gouttes d'extrait thyroïdien dès le début qui permettront à l'enfant d'avoir un développement tout à fait normal.
Ah, très bien.
Alors, bien entendu, au cours de ces examens, on va aborder les antécédents personnels et familiaux des parents dans un but préventif, aborder l'alimentation, le sommeil, l'hygiène. Après la sortie de la maternité, la famille reçoit en principe la visite à son domicile d'une péricultrice de la PMI qui vient voir quelles sont les conditions au domicile et qui peut répondre là aussi aux questions de la maman sur des choses pratiques.
Et pourquoi vous dites en principe ?
Parce que je ne sais pas si dans toutes les villes et dans toutes les campagnes c'est encore fait, s'il y a encore suffisamment de personnel pour le faire. Le milieu de la santé et de la protection maternelle et infantile, comme la médecine libérale ou la médecine hospitalière, ne va pas vraiment dans le bon sens actuellement, en nombre de personnel. Donc je ne peux pas vous dire...
Il faut que la mère elle-même...
Non, ça c'est automatique, mais je ne peux pas vous dire si c'est fait partout. Je suis incapable de ça. Donc pour la suite de la surveillance, les parents ont le choix de faire suivre leur enfant par un pédiatre libéral ou en centre de santé, par un médecin généraliste, ou par le service de protection maternelle et infantile, ça jusqu'à l'âge de 6 ans. Ils doivent également maintenant choisir un médecin traitant pour l'enfant, comme pour les adultes. Alors le médecin traitant n'est pas forcément celui qui suivra l'enfant, c'est un médecin de référence en cas de soucis de santé.
Lui, par exemple, à Nogent, pour trouver un médecin, c'est extrêmement compliqué. Alors comment font les parents ?
Je ne sais pas. Il n'y a pas qu'à Nogent, c'est un problème un peu partout. Alors... Une fois cet examen dit du 8e jour, un autre est souhaitable avant le premier mois. Donc, examen premier, deuxième mois. Oui. Donc, toujours pareil, vérification des constantes de la taille, du poids, du périmètre crânien. Et début des vaccinations obligatoires. Diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, hémophilus, hépatite.
Et ça, c'est à quel âge, alors ?
Pneumocoque et pour certains, BCG à partir de 2 mois.
Vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup de vaccins à 2 mois ?
On en avait parlé quand on a fait les vaccinations il y a quelques temps. Oui. C'est le protocole. Et de toute façon, là, ils sont obligatoires.
Ah oui, c'est inscrit dans le carnet de santé.
Oui, oui. Et légalement, c'est obligatoire. Donc, lors de ces examens, bien sûr, taille, poids, périmètre crânien, auscultation cardio-respiratoire et aspect de l'enfant seront toujours vérifiés, avec des courbes de croissance permettant de voir si ça se passe bien. Dans les premiers mois comme cela, jusque de la naissance à 3 mois, à chaque fois, on vérifiera ce qu'on appelle les réflexes archaïques.
Alors, c'est quoi, ça ?
Les réflexes archaïques, ce sont des réflexes qui existent chez le nourrisson entre 0 et 3-4 mois, qui viennent de ce qu'on appelle le cerveau archaïque, ou notre cerveau reptilien, donc millions d'années, et qui permettent de voir si le cerveau fonctionne correctement. Donc... Il y en a un certain nombre. Alors, il y a la marche automatique. Ça, c'est assez amusant. On soulève le bébé par les aisselles. On le penche en avant. Il va se redresser et se mettre automatiquement à faire quelques pas. Après 3 mois, c'est fini. Il ne sait plus marcher. Il va falloir lui réapprendre.
C'est un réflexe.
C'est un réflexe. Le réflexe, ce qu'on appelle le réflexe de Moreau, Là, c'est un réflexe de défense. Si on sollicite l'enfant ou s'il a peur à cause d'un bruit, il va se mettre sur le dos, il va écarter les bras en croix, paume ouverte, et ensuite, il va refermer les bras et les mains. Ça, assez rapidement.
Ah oui.
Ça, on ne peut pas faire le geste à la radio, mais c'est... Bon. Le grasping, qui est un autre réflexe, vous placez un doigt dans la paume de la main du nourrisson, il va refermer les mains et saisir les doigts. On peut même légèrement le soulever tellement il serre fort.
Ah oui. D'ailleurs, souvent, on fait ça et on est étonné. Et en fait, je ne savais pas...
Il y a le réflexe de reptation. Vous mettez l'enfant sur le ventre, bras allongés en arrière, il se met à ramper automatiquement. Et si on trace un trait avec le doigt sur le long du dos ou du flanc du nourrisson d'un côté, il va incliner la tête, le tronc et le bassin du même côté. C'est le réflexe d'inclinaison latérale. Alors, il y a bien sûr le réflexe de succion automatique. Sinon, il ne mangerait pas, il ne têterait pas. Et le réflexe dit des points cardinaux, c'est-à-dire que si vous touchez la joue du nourrisson, il va tourner la tête du côté où on a touché sa joue en ouvrant automatiquement la bouche. C'est un réflexe automatique pour dire qu'il va manger ou boire. Donc, on note bien sûr si ces réflexes sont bien. À partir de 3-4 mois, ces réflexes disparaissent. Lors de tous ces examens, le médecin va donner des conseils sur l'alimentation, l'hygiène, l'environnement du nourrisson et le sommeil. Ça, c'est important. Donc, sur le plan alimentaire, dans les premiers mois, l'allaitement maternel est bien sûr le meilleur. À la naissance, le premier lait sécrété par la mère s'appelle le colostrum. Il est épais, de faible volume, qui augmente progressivement sur les jours, adapté au nouveau-né, parce que très riche en anticorps maternels qui vont protéger le bébé, en protéines, en facteurs de croissance, en sucres facilement assimilables, vitamines, sels minéraux et acides aminés indispensables. C'est un aliment vraiment très important.
Et alors, les femmes pensent que quand elles commencent, il faut que ça dure très longtemps. Est-ce qu'une femme peut commencer et puis que ça dure un mois seulement ?
Tout à fait. Le colostrum est vraiment l'élément le plus important de la lactation. C'est mieux de continuer quelques mois.
Bien sûr.
Mais bon.
Et est-ce que, justement, dans votre cabinet, les femmes vous posent ces questions et est-ce que... Il y a quand même l'allaitement maternel.
Alors, sur l'allaitement maternel, c'est pas au cabinet, puisque ça se décide à la naissance, donc c'est plus à la maternité que ça va être discuté. Après, on en reparle, bien sûr. Oui, tout à fait. Dans les jours suivants, le lait va se fluidifier et augmenter de volume, avec, entre le troisième et le quatrième jour, ce qu'on appelle la montée de lait. Donc, le lait maternel a une composition tout à fait adaptée, aide à protéger l'enfant des infections, évite de nombreuses pathologies. C'est recommandé par l'OMS pour au moins les 6 premiers mois de vie. Donc on estime que l'enfant, l'idéal, c'est une alimentation lactée stricte de 4 à 6 mois.
Ah oui.
En cas d'impossibilité ou de refus de la mère, il existe des laits utilisables de la naissance à 6 mois, dits lait premier âge, que l'on va trouver en pharmacie ou en grande surface, selon le conseil du médecin qui suit l'enfant. Alors, il faut absolument interdire les effets de mode qui concernent des produits abusivement appelés lait à base d'amandes, de noix de coco, de riz ou de soja. Ce ne sont pas des laits, ce n'est pas du tout adapté à l'alimentation du nourrisson, ça ne contient pas les éléments indispensables et ça peut créer des carences graves chez le nourrisson. Alors, les laits de jument et de chèvre également à la mode ne sont pas adaptés au nourrisson. On insiste toujours sur l'hygiène. Il faut toujours se laver les mains avant de nourrir ou de changer un nourrisson, ainsi qu'après l'avoir changé. Et éviter de fréquenter les lieux publics importants. Il faut sortir les enfants en poussette dans la rue après le premier mois, bien entendu, pour leur faire prendre l'air. Mais on ne les emmène pas au supermarché, on ne les emmène pas dans une galerie marchande. On ne leur fait pas prendre le train si on peut l'éviter. Et on se lave toujours les mains avant de s'en occuper.
Eh bien, si vous le voulez, nous reprendrons cette émission dans 4 semaines. Un grand merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr.